Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI pour écouter notre émission, votre émission qui vous parle de football. Et nous commencerons par un personnage. Il préférait le sumo. Mais Jacques Chirac est entré dans l'histoire du football comme le président qui assista à la première victoire de la France en Coupe du Monde en 1998. Radio Foot rend hommage à ce personnage, aujourd'hui disparu, en ce début d'émission. CHAN 2020, les éliminatoires ont commencé, mais quand se jouera la compétition attribuée au Cameroun en avril dernier? Une mission d'inspection de la CAF vient de commencer sa tournée sur les sites donc du pays, du Cameroun, et nous irons prendre des nouvelles au pays. La belle victoire du football de la Champagne au Parc des Princes. Le stade de Reims a dominé un PSG méconnaissable, lent et amorphe, qui doit aujourd'hui partager la première place du championnat avec le SCO d'Angers. Thomas Tuchel est-il responsable? Il n'est pas le seul entraîneur qui sème des doutes en cette Ligue 1, notamment à Lyon, c'est Silvinho, après un nouveau match sans victoire de l'OL qui interroge. Vous devez poser des questions autour du Paris Saint-Germain. Bruno Salomon, bonjour.
Bonjour Annie. Effectivement, on peut se poser quelques questions sur notre ami Thomas Tuchel qui, à force de faire du bricolage, fait n'importe quoi.
Vous savez que Olivier Pron est prêt à déboucher le champagne, parce que depuis hier, ça le démange, cette victoire de Reims. Ça vous démangeait aussi, Hugo Moissonnier?
De déboucher le champagne? Ça, c'est ma vie privée, ça.
De fêter la victoire des Rémois.
Tout toute occasion, il débouche le champagne, Hugo.
Hervé Penaud, bonjour.
Bonjour à vous, mais quel plaisir d'être là. Il y a des équipes.
Alors
vous
étiez
mal.
Chez les Bretons.
Moi, j'étais en Bretagne, sous un petit crash local, à Brest.
Pour voir les Lyonnais de plus près. Et puis Franck Simon est là aussi. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, moi, il n'y a pas de champagne.
Il n'y a pas de champagne, non, non, vous, c'est France Football,
à l'eau claire.
Voilà, à l'eau claire, voilà.
N'est-ce pas?
Et le parasite.
Et défis. Notre stagiaire Ralph Samoury est avec nous aussi dans ce studio. Bonjour Ralph. Il nous aide à préparer l'émission. Radio Foot, c'est parti.
L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde.
J'arrive devant lui, je lui serre la main, monsieur le président. Il me regarde et puis il dit, je vous aime pas, vous.
Non.
J'ai dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait encore?
Et puis il me dit, avec un sourire, il fait, parce que ma femme vous adore.
Cette victoire a montré la solidarité, la cohésion. Elle a montré que la France avait une âme, ou plus exactement, peut-être qu'elle recherchait une âme.
La Marseillaise, sifflée notamment par des supporters de l'équipe de Bastia, Jacques Chirac interroge son voisin Claude Simonnet.
Quelques irresponsables ont cru devoir siffler la Marseillaise. Ce soir, c'est inadmissible et inacceptable.
Et Jacques Chirac reçoit le Condor d'or, la plus haute distinction du football bolivien.
J'étais persuadé qu'un jour, sur un stade de football, je ferais mieux que Michel Platini. Eh bien, c'est fait, car lui n'a pas cette décoration.
Je serai le président de tous les Français.
Mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République et vive la France.
Les Français. Je mesure les Français. La difficulté de la tâche qui nous attend.
Un sourire. sourire pour ce personnage de l'histoire de France, pour Jacques Chirac, disparu aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Un personnage dont sur lequel on va revenir, parce qu'on a sans doute tous une petite histoire ou une anecdote. En tout cas, son maillot offert par les Bleus champions du monde portait le numéro 23 en ce mois de juillet 1998. Et Jacques Chirac avait fait honneur à cette équipe de France pendant toute la compétition organisée dans l'Hexagone. Il embrassait lui aussi le crâne de Fabien Barthez, le gardien, et il avait fêté le titre donc dans le vestiaire, ce dont s'est souvenu d'ailleurs Didier Deschamps, le sélectionneur, qui tout à l'heure, dans un hommage rendu à Jacques Chirac, s'est souvenu de ces moments vécus, notamment en 1998. Mais de cette finale du 12 juillet 1998, Bruno Salomon, je suis sûre que vous vous souvenez, et on s'en est tous amusés grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, mais de ces images de Jacques Chirac qui...
Le mime Chirac.
Qui est en gros plan pendant que tous les noms des joueurs de l'équipe de France qui vont disputer la Coupe du Monde sur l'instant et sont cités dans le Grand Stade de France. On entendait vaguement un extrait tout à l'heure.
On va pas profiter de Radio Foot pour faire un bilan politique, mais ce qui est sûr, c'est que c'était un animal politique. Et cette Coupe du Monde, il l'a très très bien senti.
Ce moment-là.
Oui, mais ce moment-là, en fait, c'est tout un accompagnement.
Ah,
non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez les caméras qui sont bloquées sur lui et il ne connaît pas les noms. Donc en fait, il essaie d'être dans le public, mais il n'aimait pas le foot, il n'aimait pas le sport.
C'est-à-dire que quand les numéros sont dits et que les prénoms sont dits,
c'est assez difficile en radio à le faire. Mais en fait, en gros, c'est Guy Varche. Et vous voyez quelqu'un qui fait. Voilà, en gros,
c'est du playback,
effectivement, et c'est un moment qui restera. Mais voilà, il a pour revenir.
C'est même
là-dessus,
pas moqueur en fait, c'est parce que sincèrement, il ne s'y intéressait pas et donc il connaissait pas tous les.
Il a tout le temps bien senti les coups. Hein. Il avait senti le coup avec le Paris Saint-Germain, avec la Coupe des Coupes. Il avait accompagné toute cette aventure jusqu'à la finale et la victoire. Et là, c'est pareil pour cette Coupe du Monde. C'est qu'il sentait les coups. Il a senti que cette Coupe du Monde et il a surtout accompagné le projet. Il était pas très chaud sur le Stade de France. Bon, bah finalement, il l'a fait là-bas en Seine-Saint-Denis. Il est allé l'inaugurer, bon, très bien, il s'ennuyait ferme. Chaque fois qu'il s'est essayé dans un stade, ça l'embêtait. Mais il a accompagné cette équipe de France et il a vécu des moments de vie. Je relisais un truc, je me rappelais plus que Zidane, le premier qui est allé lui parler en 2006 après le coup de boule,
c'est
Chirac. Ouais. C'est Chirac qui est allé
venir,
le voir pour lui parler. Voilà, mais c'est pour dire que il sentait les coups et il a senti le coup du football.
Hugo, vous sentez le coup vous aussi.
Oui, mais tellement fort que à l'époque de 98, le premier ministre de la France c'était Lionel Jospin, qui lui était un amoureux du sport et plutôt un fin connaisseur. Et pour le coup, c'est vrai qu'on associe la victoire de 98 politiquement en tout cas à Jacques Chirac qui portait le numéro 23, qui avait un maillot bleu avec un numéro et
l'écharpe aussi,
et qui était floqué à son nom. C'est Chirac qui va embrasser Barthez. C'est vrai que c'est associé à Chirac. Donc il a même réussi à récupérer ce coup-là, alors qu'il avait un premier ministre et rival politique qui aurait été plus à l'aise dans ce rôle-là.
Olivier Prom me rappelait cette phrase justement pour illustrer tout ça. Michel Platini avait dit « Jospin aime le sport, Chirac aime les sportifs ».
C'est bien dit.
Hervé.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un personnage, on parlait d'animal politique évidemment, et qui était foncièrement humain, qui aimait bien l'humain, qui aimait bien les franches rigolades, les grands moments de convivialité, et le sport appartenait à ces moments-là. Alors, pas en étant un érudit du sport, ni un amoureux du sport, mais simplement amoureux des endroits. Et c'est vrai que moi, cette image, c'est l'image qui me reste le plus facilement de Chirac, plus d'ailleurs que l'embrassade sur le crâne de Barthez. C'est évidemment quand on le voit citer tous ces noms avec un petit décalage qui rend la scène quand même très cocasse.
Et au final, ça le rend
ultra sympathique. Parce que c'est ça l'idée derrière. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en moquer, mais on ne s'en moque pas, on trouve ça génial.
Il a eu toutes ces bourdes que vous avez passées dans le zapping là, il y a quelques instants, quand il reçoit les champions du monde, il annonce la Coupe de France. c'est la Coupe du Monde. Enfin, voilà, c'était. En plus, il en jouait le côté un peu pop star. Il le disait très facilement que, bon, c'était pas son truc, mais par contre, effectivement, il aimait. Et l'ambiance un peu caserne, vestiaire, c'était son truc, quoi. Se taper sur l'épaule, discuter de ce qui s'était passé sur le terrain. Ça, il en était capable de faire sortir le sportif de sa zone.
Alors, d'une victoire à une défaite, il vit de 1998, mais il vit aussi 2006. Et Jacques Chirac, eh bien, on va l'entendre parce qu'il s'était, à ce moment-là, élevé pour défendre l'icône de la nation, l'icône de 1998.
Zinedine.
Pas ça, Zinedine.
Et c'est carton rouge. Et voilà ce que je redoutais. C'est épouvantable. C'est pas possible.
Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Mais l'affection et l'admiration. Vous êtes un virtuose, un génie du football mondial. Vous êtes aussi un homme de cœur, d'engagement, de conviction. Et c'est pour cela que la France vous admire et vous aime.
Non, mais c'est ce côté attachant justement, et t'as des personnes comme ça que tu, voilà, que t'en as d'autres que tu fracasses, et puis le président quand même, celui-là, enfin voilà, on était plutôt tous sympas avec lui. C'est ce côté sympathique qu'apprécient d'ailleurs, enfin les joueurs, mais pas que, enfin les Français aussi.
C'est un moment important et incroyable peut-être parce que Franck, c'est le moment où Zinedine Zidane donne ce coup de boule, on s'en souvient tous, c'est là que la France va perdre sa deuxième finale de Coupe du Monde, c'est là aussi où finalement il perdra sans doute le Ballon d'Or aussi, Zidane, c'est quand même un geste qui est puni d'un carton rouge et qui est répréhensible et malgré tout, on a le président de la France qui la double pratiquement le lendemain ou le surlendemain à l'Élysée.
D'abord, je pense qu'il l'avait adoubé avant, puisqu'il l'a croisé pendant tant d'années.
Il l'absout, en tout cas.
Il l'absout, ça, c'est vrai que c'est le mot. Il a aucune obligation de le faire, mais en même temps, c'est le dernier match international, c'est la sortie internationale ratée, en fait, de Zinedine Zidane. Donc, quelque part, il se fait un peu l'interprète de tous les Français. Quand il fait ça, il est le premier des Français, mais un parmi les autres. Et de même qu'il l'a fait comme ça, moi, il y a une anecdote que m'a raconté il y a maintenant 3 jours Patrick Urbini, qui est mon collègue maintenant à France Football, mais qui a été longtemps une des plumes du quotidien L'Équipe et que Hervé connaît bien. Et il me parlait d'une finale de Coupe de France remportée du temps où Chirac était à la mairie de Paris. Et il descend en fait en bas là dans cette zone où il y a les vestiaires et tout et puis il aperçoit Toko qui avait été un des buteurs hein, des finales de Coupe de France. Toko super. ouais, c'est son premier mot parce que c'est-à-dire qu'il était proche, c'est ce que vous avez tous dit, il était proche des sportifs, il était proche des joueurs. Peut-être pas un fin connaisseur, mais il savait je pense quand même reconnaître là où il y avait du talent, il y avait quelque chose et il aimait ses ambiances.
Et puis il était entouré d'un homme, c'était toujours son ami, son bras droit. Bon après la politique fait que quelquefois ça se tend, mais Philippe Séguin qui lui était un amoureux du football.
Et puis un connaisseur.
Voilà,
ouais.
Et un connaisseur le guidait. Voilà, il disait, voilà, va par là. Donc, il savait aller au bon endroit,
ouais,
au bon moment.
Il balisait le terrain.
Ouais, effectivement.
Bon, il y a d'autres moments un peu plus tristes, peut-être, qui ont balisé les mandats de Jacques Chirac et ses liens avec le football. On se souvient de Bastia, ouais. Où il était. Alors, il n'était pas là, mais oui, effectivement, c'était pendant sa présidence. Et puis, on se souvient aussi de France-Algérie, où il était.
Je crois qu'il était quand même là hein, pour cette finale que vous évoquez, Annie.
À Bastia.
Ouais, Bastia.
Pour Bastia, pour la finale Bastia, oui,
il se lève.
Il s'en va. Ah, oui. Il regarde. Ce regard oui, auprès de Claude Simonet, le président de la Fédé, il le foudroie parce qu'il comprend ce qui se passe. Il se lève, il part, il revient après. Mais il y a un
c'était,
vrai.
C'était ouais, un moment politique
très fort,
très très fort.
Ouais, et donc il y avait aussi ce match. Vous avez des anecdotes, messieurs, vous ou des moments qui vous ont particulièrement marqué ou amusé avec Jacques Chirac?
Ben moi, j'ai jamais rencontré. Déjà, première chose. J'en ai vu d'autres, mais lui jamais. Donc c'est un peu difficile. Moi, les images que j'ai, c'est à travers les médias finalement, et puis à travers les images télé, et puis ces moments qu'on a pu suivre avec l'équipe de France de foot. Bon, il était très prompt à s'enflammer aussi dès qu'il y avait une médaille d'un sportif français. C'était peut-être un des premiers. Et puis après tout le monde.
C'est plutôt
suivi.
Bien d'ailleurs. C'est plutôt bien de le faire. Il était dans son rôle.
Tout à fait. Bon, maintenant, il faut jamais oublier que, comme le disait, hein, c'est un animal politique, et donc, qui dit animal politique, dit aussi récupération politique. Donc tout ça, ça fait aussi partie d'une ambiance et d'un jeu.
Non, mais moi, je me souviens d'un moment en Amérique du Sud, 1997, où il était en tournée et il faisait la promotion. Il était avec Platini, là où on lui remet le Condor d'or à La Paz, à 4000 mètres d'altitude, et où il défend le fait que la Bolivie continue à disputer les éliminatoires sur des terrains aussi élevés, alors que, évidemment, tous les autres adversaires...
ça plombait les adversaires.
Ça les plombe toujours.
Ça les plombe
grâce
toujours.
À Jacques Chirac. Parce qu'il a défendu.
Ah, ça, c'est un délègue. Voilà.
Je pense qu'ils en foutaient royalement, quand même.
Mais par contre, en Amérique du Sud, c'est pas du tout passé inaperçu. Au contraire, parce que alors, les Brésiliens ou les Argentins qui vont jouer là-bas à 4000 mètres et qui ont un peu de mal sur le terrain qui est à côté de l'aéroport, là, à La Paz, et lui qui avait défendu ça en disant non, mais ils ont le droit de faire jouer leurs équipes où ils veulent. Donc, bon. C'était assez amusant. Et voilà, nous voulions, nous aussi à Radio Foot, rendre hommage à Jacques Chirac et surtout à ses liens avec le football. Les éliminatoires pour le prochain CHAN ont déjà commencé. Ces éliminatoires sont même en passe de s'achever. Un troisième tour pour mi-octobre, si je ne me trompe pas. Je parle sous votre regard, messieurs les spécialistes.
Avec en plus, ils sont à des tours différents pour certains.
Ouais. Mais ça sera en tout cas ce qui définira les 16 équipes qui pourront participer à la compétition. Mais alors, quand se déroulera le sixième CHAN? Alors, quand on va regarder à quelle date le championnat d'Afrique des Nations, donc, avec les joueurs locaux africains, on le sait. On va sur le site, Hugo, il n'y a pas de date.
Non, mais il est indiqué au moins une période. Quand on va sur l'onglet, je crois que c'est compétition du site de la CACH, un peu de réclame si vous voulez y faire un tour. Il est inscrit, je crois, janvier, février. En tout cas, il est indiqué que ce sera en début d'année, ce qui est plutôt logique. Parce que
sixième édition, c'est toujours à ce moment-là.
C'est toujours déroulé depuis sa création en 2009, depuis sa première édition en 2009, en début d'année. Comme la CAN, sauf que la CAN, elle a changé de place dans le calendrier. Alors, pourquoi pas imaginer qu'il en soit de même pour le CHAN, sachant que les Coupes d'Afrique de clubs également ont changé de calendrier. Alors, peut-être que par souci d'harmonisation, ou pour d'autres raisons, la CAF serait tentée de changer le calendrier.
Loin,
c'est en tout cas ce qui se murmure dans plusieurs médias, notamment des médias camerounais que j'ai pu consulter.
On va aller plus loin parce qu'on va aller vers le Cameroun. Mais justement, le Cameroun, rappelons-le aussi, a été désigné, on s'en souvient, c'était au moment du tirage au sort en Égypte, juste dans la foulée du glissement admis et entériné de la dernière CAN, du glissement du Cameroun vers l'Égypte. Et c'était l'Éthiopie alors qui devait accueillir ce CHAN. Et finalement, bon, des changement. Aujourd'hui, il y a visite des installations prévues pour une délégation d'inspection de la CAF emmenée par l'un des vice-présidents, par Constant Omari. Et il y a donc la visite d'inspection qui a commencé. Et on va voir dans quel état de morale et d'avancement se trouve le Cameroun avec Jean-Bruno Tagne, notre correspondant. Bonjour Jean-Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Jean-Bruno, racontez-nous, est-ce que le Cameroun est un peu inquiet de voir débarquer ses inspecteurs à quelques semaines du début de la compétition?
Bah écoutez, ce n'est pas pour faire du J-point Remingonon, mais chez nous on dit que lorsqu'on a été mordu par un serpent, on fait des... On met attention aux mille pattes. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les Camerounais sont effectivement inquiets parce qu'après le retrait de la CAN 2019 au Cameroun, aujourd'hui, beaucoup redoutent que le CHAN soit également retiré au Cameroun. Donc, cette mission d'inspection de la CAF est observée avec très grand intérêt, non seulement par l'opinion, les autorités et tous les sportifs qui espèrent vivement que cette compétition se tienne au Cameroun. Et comme vous l'avez dit, l'inspection a commencé aujourd'hui, emmenée par l'un des vice-présidents de la CAF, Constant Omari.
Jean-Bruno, on se souvient qu'au moment où il y a ce glissement, que le Cameroun perd, parce que appelons les choses comme on le doit, perd l'organisation de la dernière CAN. On se souvient que pour essayer d'avoir un peu un mouvement d'humeur, les Camerounais avaient promis d'inaugurer des stades qui, selon eux, étaient pratiquement prêts, qu'ils les auraient inaugurés au moment où commençait la CAN en Égypte. Est-ce qu'ils ont été inaugurés tous ces sites?
Eh ben non. Les stades qui étaient censés accueilli la CAN en juin 2019, malheureusement ne sont pas prêts. Par exemple, le stade Olembe, l'un des nouveaux stades de la ville de Yaoundé, parce que Yaoundé totalisera prochainement deux stades, le stade Amadou Ahidjo et le stade de complexe sportif Omnisport d'Olembe. Malheureusement, il n'est pas prêt. Les chantiers sont à l'arrêt depuis quelques temps. Il y a quelques chantiers, quelques stades qui ont été construits, qui sont pratiquement prêts. Mais honnêtement, s'il fallait organiser la CAN Chan où le Chan aujourd'hui, on n'est pas encore prêt et les chantiers se poursuivent encore. Et les missions d'inspection de la CAF ont pu le constater aujourd'hui. Par exemple, comme je vous l'ai dit, le stade Olembe, il y a très peu de chances que le Chan se joue sur ce stade. Par contre, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, il est prêt. Il avait été rénové depuis 2016 pour accueillir la CAN féminine. C'est un stade qui est prêt. À Garoua, le stade, lui aussi, il est pratiquement prêt. Bafoussam, le stade, il est prêt. Parce qu'il y a quatre sites qui ont été choisis. Yaoundé, Bafoussam, Douala et Garoua. Donc là-bas, les stades sont presque prêts, mais pas totalement prêts. Il va falloir également travailler les voies d'accès et tout le reste.
Hugo Moissonnier.
Oui, Jean-Bruno Tagne, notamment des soucis en ce qui concerne les voies d'accès à Douala. En tout cas, les informations et même les images qui nous sont parvenues avec un stade qui lui semble prêt, mais... clairement, on ne sait trop par quelle route y accéder, parce que sur les images que nous avons pu voir, il n'y en a pas de route. Vous confirmez ?
Oui, effectivement, je pense que le plus gros souci que le Cameroun pourrait avoir avec le Chan, ce ne sera pas avec les stades. Parce que les stades, on doit, à la vérité de le dire, ont considérablement avancé. Les chantiers sont pratiquement prêts. Le plus gros souci qu'on pourrait avoir, ce sont les voies d'accès. Notamment dans une ville comme... Douala, la voirie urbaine là-bas s'est considérablement dégradée ces dernières années. Donc, le chantier, il est énorme et c'est une très, très grande ville qui a une densité de la population assez forte. Donc, les déplacements, si jamais de nombreux supporters débarquaient sur le Cameroun pour assister à cette compétition, on pourrait avoir quelques soucis avec les déplacements des supporters pour aller dans les stades. Donc, la voirie urbaine là-bas est... il faut le dire, désastreuse. Il va falloir y travailler. Quelques chantiers ont été attribués, mais il y a encore du boulot.
Jean-Bruno,
pareil à Bafoussam également.
Il y a une chose, c'est qu'il y a des différends entre l'État et les constructeurs qui réclament des sommes assez énormes à l'État et qui ont cessé les chantiers, notamment une compagnie turque du côté de Douala.
Du côté de Douala, il y a également des problèmes de financement sur le stade d'Olembe, alors qu'il n'a pas été retenu pour le Chan, mais pour le stade d'Olembe à Yaoundé.
Oui, absolument. Il y a pas mal de soucis comme ça avec des entreprises qui ont gagné des marchés pour des infrastructures en ce qui concerne cette compétition. Je vous parlais par exemple du stade de Olembe qui aurait pu être rodé à l'occasion du Chan qui malheureusement ne sera pas utilisé pendant cette compétition parce qu'il n'est simplement pas prêt. Je rappelle que c'est un stade qu'on construit depuis 2009. On a quand même traîné. Donc, voilà. Mais comme je dis, le plus gros souci, ce sont les infrastructures routières. Parce qu'à Bafoussam, par exemple, il y a un nouveau stade qui a été construit. Lui, il est prêt depuis longtemps. Maintenant, les voies d'accès dans ces différents stades sont en train d'être travaillées. Et c'est ça le plus gros souci. Hugo Moissonnier parlait tout à l'heure des entreprises qui ont abandonné les travaux. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a la construction d'un hôtel qui avait été également abandonné également par un autre entrepreneur. Donc, il y a pas mal de soucis financiers dans la construction d'un certain nombre de chantiers.
Jean-Bruno, une chose aussi, il y a des rumeurs qui nous parviennent ici, comme quoi il y aurait peut-être un changement du coup de date. Alors, peut-être à cause des infrastructures, peut-être parce que la CAF veut changer de calendrier. Est-ce qu'on en parle du côté du Cameroun ? On passerait la compétition de janvier, comme c'était avant, à peut-être juin, comme est devenue la nouvelle CAN.
Oui, alors j'ai discuté avec au moins deux personnes à la Fédération camerounaise de football qui pensent que cela pourrait être une solution. On l'avait déjà expérimenté dans le cadre de la CAN féminine en 2016. Je pense que le calendrier avait été légèrement bousculé pour permettre au Cameroun d'être prêt. Et Dieu merci, le Cameroun avait pu se rattraper et avait organisé une très belle CAN féminine. Il y a des possibilités que, effectivement, le Cameroun sollicite que le calendrier de la CAN soit légèrement bousculé, mais est-ce que la CAF va pouvoir l'accepter? Là est toute la question, et c'est au bout de cette mission d'inspection conduite par l'un des vice-présidents de la CAF qu'on pourrait en savoir un peu plus.
Hervé et Franck, ça vous inquiète, ça vous étonne?
Ça m'étonne, non. Ça m'inquiète, oui. Parce que je trouve qu'il y avait des dates qui avaient été définies. On savait que c'était en janvier-février. Il fallait être prêt pour janvier-février. À un moment, on peut pas demander des reports de manière permanente. Et la CAN déjà a glissé de 2 ans. Tout le monde nous avait expliqué que tout serait prêt, il n'y aurait pas de souci. Et maintenant, on redemande encore des mois supplémentaires. Alors moi, c'est pas le fait de les donner, parce que je le comprends tout à fait. Et puis, j'espère bien aller voir le Chan au Cameroun.
Il y a un report, on n'est pas encore sûr que ce serait à cause des retards du Cameroun.
Oui, alors comme on m'explique, un peu de naïveté, mais ne nuit pas à l'homme, c'est important aussi. Mais comme on m'explique qu'en juin, c'est très difficile de jouer au Cameroun, parce que les conditions atmosphériques sont pas évidentes avec la saison des pluies,
c'est un
pareil durant la CAN. Mm-hmm. Alors, janvier était quand même une date qui était parfaite, qui semblait à peu près correspondre à tout ce qu'on avait. Mais si vous définissez un calendrier de départ et vous n'êtes pas prêt
et on doit tester les installations,
je sais pas vraiment. Vous savez, les bras m'en tombent à partir du moment où l'année dernière. Enfin, cette année, on m'avait expliqué qu'en mars, tout serait prêt. Mais le problème, c'est qu'on parle des stades. C'est une chose, ça. Les stades, j'ai pas trop d'inquiétude dessus. Les infrastructures. Très importantes. Alors, sur un Chan, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a besoin d'un petit peu moins d'infrastructures. Les hôtels demandés pour les équipes sont un peu moins flamboyants. Mais pour une CAN, ça n'a rien à voir. Une CAN, on demande quand même des choses
surtout
très
importantes.
Et je parle même pas, en plus, des hôpitaux, etc., etc.
Franck?
Pas mieux.
Pas mieux.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on commence à taper sur le Cameroun, on va nous accuser de dire ah bah ils font le travail n'est pas fait ou n'est pas bien fait, etc. J'entends bien et c'est bien ce que vient de raconter le correspondant. Et pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec un collègue camerounais qui était présent au gala de la FIFA en Italie. Il a rencontré des gens de la CAF sur place. Et effectivement, de ce qu'ils m'en disaient, ils sont en train de discuter de ce report.
Il y a des inquiétudes.
Voilà. Oui, ils sont. Après, quelle que soit la raison, prêt, pas prêt, etc. Mais entre janvier et entre juin, il y a peut-être une date médiane à trouver. Et peut-être que ça sera au milieu du guet, tu vois.
Mais je trouve que la raison est gênante quand même. Si
bien
c'était
sûr.
Une volonté vraiment que le Chan à partir d'aujourd'hui soit tous les mois de juin, ça, on peut en discuter. Et puis il y a pas de souci. En revanche, si c'est vraiment un problème d'infrastructure, je trouve que c'est gênant parce que rappelez-vous quand même qu'on nous avait expliqué, certains avaient quand même gueulé parce que la CAN n'avait pas eu lieu au Cameroun en 2019.
Et ils continuent de le faire.
Voilà.
Ils
alors que si vous n'êtes pas capable d'organiser un Chan, ça n'a rien à voir avec une CAN. Déjà, il y a 24 équipes.
Et tout à l'heure, comment Jean-Bruno parlait du public. Mais quel public va venir, à part le public camerounais, qui va venir voir le Chan? Dans les dernières éditions du Chan, il y avait malheureusement très peu de public, j'appelle un public panafricain. Les pays voisins, ils viennent pas. Donc, hormis peut-être,
même au Maroc,
au Maroc, il y avait personne
y
dans
les
stades.
Il y avait
des gens d'Afrique centrale, éventuellement.
Voilà, oui, les gens d'Afrique centrale, mais ça représente quelle population? Donc, c'est gênant pour les Camerounais s'ils ont envie de voir une grande compétition, pas pouvoir s'y rendre parce qu'il y a des problèmes d'accès, quoi. C'est grave.
Ouais. Hugo?
Oui, je voulais m'adresser à Jean-Bruno Tagne. Le Cameroun a récupéré l'organisation de ce Chan 2021 après que l'Éthiopie ait été écartée et c'est une répétition, on va pas se mentir, ce Chan 2020 en vue de la CAN, pardon pour le lapsus, il est révélateur, en vue de la CAN 2021 que le Cameroun doit organiser pour montrer que 2019 entre guillemets n'était qu'un accident. Là il y a une visite d'inspection, tout n'est pas forcément prêt, on s'inquiète sur le fait que le Cameroun puisse être prêt en vue du Chan. On sait également que des infrastructures prévues pour la CAN 2021, type le stade d'Olembe, qui est quand même un petit peu l'étendard de ce parc de stades que doit pouvoir proposer le Cameroun en 2021, n'est toujours pas prêt. Est-ce que cette visite d'inspection qui est là pour le Chan, Jean-Bruno Tagne, elle fait penser déjà à la CAN 2021? Est-ce que vous craignez que des doutes commencent à s'immiscer dans l'esprit de la CAF pour la CAN 2021?
Absolument. Il est évident que si le Cameroun venait à ne pas réussir l'organisation du Chan, cela mettrait en difficulté le pays pour ce qui est de la CAN.
Jean-Bruno. Bon, je suis désolé, il y a une coupure dans la communication. Jean-Bruno. Bon. Jean-Bruno Tagne, on a compris l'essentiel. Effectivement, ça mettrait aussi en difficulté le Cameroun. Voilà. Évidemment, si ils ont été dessaisis de l'organisation de 2019, qu'en 2020 ils n'arrivent pas à faire le Chan, comme l'expliquait Hugo.
Et même s'ils le font, c'est déjà ils montrent sur les visites d'inspection dès maintenant que ça risque d'être compliqué pour 2021.
Franck,
c'est pas une première dans l'organisation d'un Chan. Souvenez-vous de la fois passée, le Maroc a été appelé à la rescousse. C'était le Kenya qui devait organiser, ils n'étaient pas prêts. Ben la confédération était dans son rôle et leur a retiré. Donc que la CAF vienne et constate ce qui se passe, c'est elle est dans son rôle, purement dans son rôle. Je pense, je suis même étonné qu'il n'y ait peut-être pas eu des visites intermédiaires. Est-ce que c'est la première ? À l'évidence, oui.
Oui.
Mais dans tous les cas de figure, ils font leur boulot.
Mais il y a des signaux d'alerte.
Oui, il y a des signaux d'alerte.
Et on est quand même fin septembre.
Mais oui.
Fin septembre.
C'est pour ça que Radio Photon s'y intéresse.
C'est un sujet très intéressant. Je suis persuadé que là, tout le monde nous écoute en Afrique. Les gens qui suivent le football africain sont passionnés par cet événement, et le Cameroun, évidemment. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le donner aujourd'hui au Cameroun, c'est-à-dire que si même on le repousse en juin, après la deadline sera quoi ? Mars ? Avril.
C'est ce que je suggérais tout à l'heure.
Donc, si c'est pas réglé, vous faites comment? Alors, la deadline pour la CAN, ce sera quoi? Ce sera septembre, octobre?
Ou alors, tu retires tout simplement. Ça peut arriver. C'est arrivé.
Ouais.
C'est arrivé.
Mais ce sera un sacré signe pour la CAN.
Sera inquiétant. Jean-Bruno Tagne, on vous a retrouvé, mais on reviendra vers vous plus tard pour continuer à s'intéresser à ce CHAN et aux travaux et aux infrastructures qu'il y a dans votre pays. Merci beaucoup pour votre participation dans l'émission aujourd'hui.
C'est parfait, Ali. À bientôt.
Merci.
Je vous tiendrai au courant.
Merci beaucoup. À noter aussi une petite info africaine dans le feuilleton, l'affaire, voire la crise, comme on l'appelait ces dernières heures en Égypte. Cette crise qui opposait le grand Mohamed Salah et sa fédération égyptienne au sujet du prix The Best et du non-vote du sélectionneur et du capitaine des pharaons. Eh bien, nous avons eu des éclaircissements et la fédération plaide coupable, ce qui laisse entendre, en fait, c'est ce que laissait entendre hier notre confrère Karim Farouk, que l'on avait en direct depuis le Caire. C'est une défaillance, en fait, de la fédération qui est en pleine reconstruction depuis le 8 juillet, depuis l'élimination de l'Égypte.
Il y en a d'autres, en a d'autres, Annie, vous savez ça.
Ah oui.
Du côté du Soudan du Sud, demandez donc au sélectionneur ce qui s'est passé avec son vote.
On s'est beaucoup intéressé ici, et on est, quand on arrive à avoir les informations, on s'y intéresse. Ouais. On a noté que 36, je crois, sélectionneur avait voté seulement et 34 capitaines sur 52.
Donc, j'aimerais savoir où arrivent les fax.
Non, alors là, en l'occurrence, c'est la fédération reconnaît qu'il n'y avait pas eu de signature et contre-signature, et ça n'avait pas été transmis à la
demander à tous ces.
La Côte d'Ivoire aussi.
Oui, la Côte d'Ivoire.
Non, il y en a beaucoup.
Bien sûr.
On continuera.
Vous voulez dire qu'on est plus sérieux à France Football sur Ballon d'Or? Je vous confirme, nous sommes sérieux sur le Ballon d'Or.
Vous savez que c'est ce qu'on a dit dans l'émission, vous ne l'avez pas écouté peut-être, mais je disais que vous étiez notamment chargé de recueillir le vote s'il n'était pas arrivé.
Je suis actuellement non pas dans le recueil des votes pour le coup, puisque ça n'a pas commencé le référendum.
Oui.
En revanche, je suis maintenant sur ce qu'on appelle, je check tous les votants du jury côté africain. Puisque vous savez que l'an dernier, il y avait eu notamment un souci avec un pays insulaire, et je vérifie que les gens qui vont voter, d'abord, ils existent sous la bonne identité, et de deux, font un métier de journaliste. Ils sont pas communicants ou ils sont pas politiciens, etc., etc. Donc il va y avoir quelques changements dans le jury. Je vous l'annonce déjà. Oui, je vous donne pas les pays, mais il y aura des changements importants.
Il a du pouvoir, Franck.
C'est pas du pouvoir, c'est simplement de répondre au fait que. Oui, moi je suis pas votant pour mon pays, mais en revanche pour la presse sportive africaine, je pense qu'il est important que ça soit une personne qui ait une ouverture
fiable,
qui soit fiable et qui ait une ouverture sur l'international et fasse ce métier de journaliste. Point barre.
On attendra avec impatience le 21 octobre.
Voilà.
Et l'on continue notre actualité, on va vers le champagne.
Balle interceptée, heureusement par les joueurs de Reims, et l'arbitre siffle.
Les Rémois mènent ensuite des attaques de fort belle allure. Et ces attaques de Reims finissent par être payantes.
Ça coulisse parfaitement bien avec ce centre pour Dia. Dia, la reprise de Dia.
Oh, quel but ! Quelle action !
Et un but façon Neymar ! Façon Neymar, mais pour Reims, pour Boulaye Dia, qui termine le boulot. C'est fini.
2-0. Grosse déconvenue pour le PSG, mais surtout énorme performance de Reims.
Le champagne coule à flot dans Radio Football.
C'est Olivier Pont qui est en train de boire ou quoi là? Non, ça descendait bien là, non?
C'est Laurent Salerno qui nous a fait
Laurent,
sauter le bouchon là.
Le maestro.
Voilà, champagne donc pour les Rémois victorieux, bien sûr, et bien peut-être pour tout le monde aussi ce champagne. Car le parc, même Bruno Salomon, s'est levé. Le parc s'est levé comme un seul homme hier soir, n'est-ce pas, quand Boulaye Dia a inscrit ce but qui scellait la partie, mais surtout une bicyclette. Et on
qu'on avait vue 10 jours avant, eh bien, celle à la façon Neymar, comme le disait l'un de nos confrères.
S'ils nous mettent une bicyclette tous les 15 jours, il faut qu'on se prépare.
On va y aller.
Franchement,
il faut plutôt prendre Amara Simba comme consultant.
C'est ça, oui. Effectivement. Ouais. C'est un bel hommage. Mais en tout cas, voilà, ce Paris Saint-Germain, c'est bien mis dedans. Mais avant de parler du PSG, j'aimerais juste dire.
On va parler de Reims, moi. Voilà. Je voudrais, justement, parce que si Paris était méconnaissable,
je voulais y aller,
hein, n'est-ce pas? Méconnaissable, et si on imagine que 7 jours avant seulement, ils étaient en train de jouer comme des dieux face au Real en Ligue des Champions. Alors, nous allons y revenir, mais on voulait rendre hommage à Reims. Reims qui a réalisé un bon match, une sacrée performance, puisqu'il a interrompu, eh bien, c'était 22 matchs que le PSG ne perdait pas sur sa pelouse du Parc des Princes. Et l'entraîneur rémois, on va l'entendre, David Guillon, il ne cachait pas sa satisfaction.
Il faut retenir la victoire d'un groupe. Jusqu'à maintenant, il y en a certains qui n'avaient pas pu être utilisés. J'avais décidé de faire en effet des choix sur ce match, mais je savais très bien que les joueurs qui allaient rentrer, non seulement allaient remplir leur mission, mais surtout allaient performer. Donc voilà, je suis vraiment très très heureux en effet de voir tous ces joueurs qui ont été organisés, disciplinés, qui ont respecté le plan de jeu à la lettre. Je sais que je peux compter sur un groupe depuis le début de la saison. J'ai un groupe jeune, très jeune, l'un des plus jeunes de la Ligue 1, donc j'aimerais qu'à travers ce genre de match, à travers ce genre de performance, mes joueurs prennent conscience de leur potentiel et qu'ils affichent plus de caractère encore et plus de personnalité pour tous les matchs de championnat.
Alors, ils ne sortaient pas de nulle part, Hugo, c'est Rémois, n'est-ce pas?
Non.
Ils avaient bien commencé déjà.
Dans l'histoire ou cette saison?
Alors, dans l'histoire, parce que si vous avez entendu le joli montage de Laurent Salerno, ça faisait allusion.
Oui, il menait
les
attaques de fort belle allure. Il fut.
Alors, c'était les années 50, n'est-ce pas, la grande époque du grand stade de Reims, qui n'avait pas le stade Auguste Delaune à ses dimensions. D'ailleurs, il était plus grand et c'était un vélodrome. En tout cas, pour ce qui est de cette saison, ils avaient commencé fort en battant d'entrée Marseille.
Oui, Marseille à Marseille, 2-0. Donc,
avec Boulaïdia déjà.
Déjà une victoire à l'extérieur. Victoire contre Lille également, alors cette fois à domicile au stade Auguste Delaune. 2-0 également, donc 2-0, c'est le tarif. Ça coûte cher le champagne, et oui. Et le tarif, c'est 2-0 quand on affronte un gros, entre guillemets, du championnat.
C'est terrible de regarder, avant le match, vous prenez le classement. Reims est 12e. Du championnat.
Aujourd'hui, ils sont 8e.
8e. Mais avec 4 buts marqués et 2 buts encaissés.
C'est la meilleure défense de Ligue.
C'est la meilleure défense de Ligue. Par contre, c'est horrible offensivement. C'est-à-dire que c'est un béton. Mais c'est du bon béton. C'est pas.
Non,
Toulouse.
Mais ils ont des contre-attaques.
C'est pas
aussi,
Toulouse qui débarque au Parc des Princes, qui pose un bloc de 5, un bloc de 4 et juste une pointe en disant vas-y, gambade devant, on verra bien si t'arrives à attraper un ballon. Non, là, David Guillon, tout est bien travaillé. C'est du vrai 4-4-2 défensif. Avec des belles contre-attaques, avec des belles choses et de la technique, des belles sorties de balles. Et vraiment, moi j'étais pour Radio France, j'étais à Marseille pour le Marseille-Reims.
Ça avait été un super match, très beau match.
Ouais. Très très beau match de la part des Champenois. Et hier soir, je trouve que le Paris Saint-Germain a regardé le classement avant le match. S'est dit, franchement, 4 buts, 2 buts encaissés, allez, ça va passer vite fait, 12e. Mais c'est ça la vraie problématique du PSG, c'est que vous êtes capable de jouer comme des dieux, Annie, comme vous l'avez dit, face au Real Madrid, et après derrière, il faut s'en mancher Reims, mais sauf qu'avant ça se passait pas comme ça.
Parlez-nous de ces joueurs de Reims, Franck, parce que je suis sûr qu'il y en a que vous suivez depuis quelque temps.
Mais il y en a beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs africains dans ce club.
Exactement.
C'est un club qui fait. Ouais, Hugo.
Je voulais juste vous les énumérer.
Si.
Alors, Étienne Mendy n'est plus là, le portier sénégalais. Ouais. Il a laissé sa place à Rekovic, qui n'est pas africain, mais il y a Konan, l'arrière gauche ivoirien. Ouais. Abdelhamid, international marocain.
Voilà, des internationaux, ces deux-là.
Qui était présent lors de la CAN, qui est resté sur le banc, me semble-t-il. Et puis, il y a un Zimbabwéen, je sais que vous aimez bien le football
Mounetzi.
de cette zone-là.
Bien sûr.
En Afrique, où j'ai toutes les 23 ans, qui a joué en Afrique du Sud. Qui a été très beau, qui a notamment délivré une passe décisive, c'était sa première titularisation me semble-t-il en Ligue 1.
Il était déjà apparu, Marshall Mounetzi, mais alors il peut jouer axial ou dans ce poste-là à la gratte, et c'est vrai qu'il fait une super passe.
Sur le premier but,
alors, juste
de Camara.
La petite anecdote quand même, c'est que Thomas Tuchel fait tourner, mais David Guillon aussi, c'est-à-dire que Alexis Romao n'est pas là sur le terrain, Oudin qui est leur meilleur joueur, n'est pas là sur le terrain, rentre en milieu de match. En gros, c'est OK, vous faites tourner, nous aussi on est capable de faire tourner. Et en faisant tourner, il a mis des jeunes de 17, 18 ans. Attendez, Camara, son but, il fait 1m68. Il a mangé sur la tête du petit Mbesso, qui fait 1m88.
Il n'était même pas Mbesso. Si tu revois l'action, il est même très loin.
Ah, il est même très loin, mais 1m68, quoi. Il colle une tête, et il fait un jump énorme.
C'est ça.
Bref, il y avait de la. il y avait quelque chose, et ils n'ont que deux tirs. Hein.
Oui.
Ça fait 2-0, deux tirs cadrés.
Di Sassi aussi dans cette équipe, hein, qui je crois est d'origine
aussi
congolaise. C'est
vraiment impressionnante. Hein.
Tout à fait.
Alors, à contrario, allons-y à contrario. Une mauvaise journée pour ces Parisiens, rejoints en plus en tête de classement hein, par Angers. Angers qui a facilement battu Toulouse. Les voilà de dauphin à co-leader. Et donc, le PSG doit partager eh bien, son strapontin. Le stade était plein, il y avait même l'émir. Alors, l'émir, il a dû se dire qu'entre les deux matchs, lui aussi, il a dû voir qu'en une semaine, son équipe faisait du chemin.
Bah, il a vu qu'il avait par exemple dépensé 47 millions d'euros pour un garçon qui s'appelle Paredes, qui est le sixième transfert le plus cher de toute la Ligue 1. Voilà, et qui ne met pas deux pieds devant l'autre, infoutu de faire une passe. Ça fait 16 matchs. Il est pas capable de faire une passe. La dernière passe qu'il a fait, c'était contre Villefranche en Beaujolais, en Coupe de France.
À son niveau.
Sinon, il est mauvais.
Alors une des routes d'un groupe, on va le voir au coup d'envoi, donc nettement remanié, à l'exception de Neymar, hein, il y avait quand même une star sur le terrain, et d'ailleurs on l'a quand même vu essayer, tenter, et puis quand même après se désespérer un peu. En tout cas, résultat, la déception, et c'est ce que reconnaît Thomas Tuchel, un peu abattu, un peu tendu aussi en conférence de presse.
Et c'était pas possible de donner le rythme, l'intensité, l'agressivité des récupérations de ballons. Après, on a perdu Choupo, le quatrième attaquant. On a un quatrième numéro 9 dans l'équipe, mais pas de numéro 9 sur le terrain. Ça, c'était plus et plus compliqué. Avec la première occasion, ils ont marqué. Et voilà, c'est un match très compliqué, mais pas un bon match de nous. Peut-être, quelquefois, c'est nécessaire pour comprendre que c'est jamais facile. Moi, si vous pensez que c'est ma responsabilité, je prends la responsabilité. Pas de problème. Et je dis pourquoi j'ai fait. Je prends les décisions en avant parce que après tout le monde peut être entraîneur, non? Après un match.
Bon, nous, on prétend pas être entraîneur, mais quand même, on observe ce que fait Thomas Tuchel depuis quelques temps, depuis quelques mois. Alors, est-ce que Thomas Tuchel porte la responsabilité de cette défaite, notamment en ayant aligné ce qu'il n'était peut-être pas totalement obligé de faire face à Reims, qu'il a peut-être pris de haut, une équipe C, on va dire, du Paris Saint-Germain, Bruno?
A B+, oui, mais pas
à B+. A B+, plus.
A B+, plus. Plus.
Il y a quand même Navas, Kimpembe, voilà, Neymar.
Mais après tu as Kurzawa, après tu as Mbesso, qui est un jeune joueur, défenseur central, excellent en défense centrale, tu le mets latéral droit.
Non, mais le pauvre, là, alors lui, c'est quelqu'un qui a une excuse.
Sauf que déjà, tu joues à 10. Mm-hmm. Après, derrière, t'as Paredes, tu joues à 9. Après, t'as Kurzawa, tu joues à 8. Non, mais en soyons sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le matin même, il a décidé dans son groupe, Thomas Tuchel, de se passer le Thiago Silva, d'Idrissa Gueye, de se dire bon,
on lui souhaite un bon anniversaire d'ailleurs.
Hein, oui, absolument.
Hein, c'est 30 ans, alors on pense à Idrissa Gueye.
Idrissa Gueye qui a même pas fait les premiers matchs du mois d'août, donc qui n'est peut-être pas.
Il a fini un peu carbo, quand même, contre Lyon,
ça s'explique,
bien sûr, mais son dernier quart d'heure, alors que déjà une statue va être montée par les supporters près de la porte d'Auteuil.
Ils ont rendu hommage hier avant le match, Idrissa Gueye.
Non, mais pour revenir sur Thomas Tuchel, c'est quand même sa deuxième défaite en 7 matchs de Ligue 1.
L'année dernière, c'était 2 en une saison, n'est-ce pas?
Et si si on revient bien en arrière, même Annie, depuis le mois de mars, depuis Manchester, il a perdu le fil. Il a perdu le fil. C'est comme Unai Emery.
Après, il a perdu le fil, il ne sait plus où il en est.
Et le match contre le Real, alors?
Mais le match contre le Real, c'est une prise de conscience de la part d'un groupe. C'est-à-dire,
c'est pas collectif. Le Real qui était très faible aussi ce jour-là.
Non, mais il y a un moment, non.
Non, et puis c'est pas le plus dur, c'est pas de motiver des joueurs pour jouer le Real. Ça, à la rigueur, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, s'ils jouent les quarts de finale, demi-finale de Ligue des Champions, il y aura aucun souci. À la rigueur, tout jeune, il peut ne pas parler, il se passera rien. En revanche, ce qui est important, c'est dans les matchs un peu moins intéressants, hein, comme le disait Bruno tout à l'heure, quand il regarde le classement 12e, 4 buts marqués, 2 encaissés, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est là où il faut trouver la motivation. Et c'est là où, quand il parle de manque d'intensité, ce que je peux tout à fait comprendre, mais c'est qui doit arriver à donner cette intensité à ses joueurs, c'est bien l'entraîneur. Donc aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, depuis ce fameux Manchester United, qu'il y a eu comme une cassure, celui qu'on encensait à l'époque.
Et lui, dans son vestiaire, sans doute.
Et lui, visiblement, dans son vestiaire. Et puis alors là, il va se retrouver en plus avec des problèmes d'hommes importants, une fois que tout le monde sera revenu, s'ils reviennent un jour. Mais enfin, devant, il va falloir faire des choix, ça va être compliqué. Derrière, c'est pareil. Oui. Et puis, je sais pas pourquoi il se passe toujours de meunier.
Attention à la trêve internationale d'octobre aussi, où il y aura un déplacement pour beaucoup de gars à Singapour. Non, j'avais une question.
S'il est encore là.
Mais les joueurs, eux, y seront. Et donc,
il y aura un autre problème d'homme. On va y revenir, mais il y aura un autre problème d'homme. Ça sera avec Leonardo aussi. Ouais, parce que deux défaites en sept matchs en Ligue 1, ça va pas le faire.
Franck, j'ai une question pour Bruno parce que j'ai pas une méga mémoire. Il n'empêche. Il y a pas une grosse claque dans la figure en fin de saison dernière contre le Stade de Reims. C'est pas la première fois qu'il gifle le PSG.
Oui, mais c'est ce que nous rappellera. Ils avaient perdu leur dernier match.
Oui, mais la problématique, c'est que tu te présentes sur cette rencontre avec
Reims,
des joueurs. Voilà, c'est à Reims.
Mais tout de même.
Reims, tu le sens.
C'est le même
président Caillot. Le président Caillot est venu nous voir pour nous dire.
T'étais champion. C'est rien à voir.
Alors, depuis le mois de mars, ils avaient traversé la fin de saison comme des fantômes.
On en a souri avec le confrère de France Bleu Champagne, Alexandre Drabon, que je salue, hier soir, ce qu'il me dit, on vous pose tout le temps des problèmes. Rappelez-vous, si tu veux faire un peu d'histoire, c'est à Reims que Carlo Ancelotti, dans un placard à balai, s'énerve avec Leonardo et le président de la Al Khelaïfi, et que et bilan de l'affaire, il leur dit « Ok, à partir de ce moment-là, à cause d'un match nul, vous me cassez les bonbons, c'est fini, je partirai. » Et il est parti. Donc en fait, Reims, il y a toujours eu ce problème. Après, derrière, je pense que c'est un problème d'activation mentale, mais c'est surtout que quand tu regardes ton 11 de départ, tu pars à 8. Kurzawa sort sous les sifflets et commence à pleurer.
Ah oui.
Il a pleuré hier soir. Il s'est mis dans une serviette et il a commencé à pleurer. On avait Paredes, ce type a coûté 47 millions d'euros.
Mais il pleurait pas.
Super.
Il paraît qu'il pleurait de rire quand il a vu les 47 millions.
Lui prend 500 000 euros par mois. Il est content. Il joue pas au foot. Il est là pour jouer au foot.
Hugo a une question pour vous, Bruno.
Oui, d'abord rebondir, rendre un hommage effectivement à Alexandre Drabon, qui est un peu mon mentor dans ce métier. J'étais là ce soir de mars.
Je vous dis
qu'il a joué. J'ai bien vu que le lobby champenois en train de courir.
Voilà. J'étais à ses côtés ce jour de 2013 quand le PSG a perdu à Reims. Ça nous ramène justement comme cette statistique à un temps assez ancien. La première période Leonardo, c'est la première défaite du PSG à domicile sans être déjà champion.
Absolument.
La dernière, c'était en 2012 contre Rennes qui avait fini la rencontre à 9, je crois, dans mes souvenirs. Donc c'est dire si cette défaite elle est assez ce type de défaites sont rares dans l'histoire récente du PSG.
Elle est forte, elle est importante, c'est une bonne piqûre de rappel. Après, je pense très franchement qu'il y a, ce PSG, je vous rappelle, il y a 6 ou 7 blessés, l'infirmerie est quasiment pleine. En plus, l'entraîneur décide de se dire, bon, allez, on va mettre des cadres encore, on va les faire souffler. Et à un moment donné, tu dois respecter ton adversaire. Et je trouve que c'est une très bonne claque de la part de Reims. Et en plus, tu prends pas au sérieux Dijon, je suis désolé pour Dijon, ça passera quand même, parce qu'avec un exploit individuel. Mais là, c'est face à une bonne équipe de Ligue 1, c'est pas parce que c'est toi Hugo et que t'es supporter de Reims, mais c'est que c'est une bonne équipe et Camille adore le Stade de Reims.
C'est l'équipe, peut-être l'une des équipes les mieux organisées de toute la Ligue 1.
Et sur France Info, c'est comment je les ai appelés, les hérissons. Hérissons champenois, parce que c'est une espèce ils sont hyper disciplinés, ils se suivent.
Et d'ailleurs, on voyait que ça faisait entonnoir sur Neymar, sur Di Maria.
Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est comme ils ont pris un peu d'assurance, cette équipe de Reims, finalement, c'est dans les petits matchs où ils sont en difficulté, dès qu'ils veulent un petit peu plus jouer. Alors que quand ils restent dans ce qu'ils savent faire, alors là, c'est très intéressant contre les grosses équipes. Et ben là, ils excellent, ils prennent pas de risques, tout est en bloc, ça coulisse très bien.
Bon boulot de sortie de balle très rapide. Coach Guillon,
tout à fait. Mais en revanche, c'est là où ça devient plus difficile, c'est après quand il faut aller un peu plus loin. Parce qu'on voit une équipe comme ça, qui bat Marseille, qui bat ci, qui bat ça, au final, vous dites, ils sont combien dans le championnat? Ils sont en deuxième? Ah non, c'est Angers. C'est pas eux. Ils sont déjà huitième. Ouais, mais c'est pas énorme pour une équipe qui est capable de performance comme ça.
En plus.
Après, juste une chose quand même sur la Ligue 1 et le niveau de la Ligue 1.
Ne moque pas. Les gens nous écoutent.
Donc, le Paris Saint-Germain a perdu.
Contre une grande équipe.
Non, a perdu deux matchs. Et donc, le PSG est combien en classement?
Libère.
Merci. Voilà. Donc, comme ça, c'est réglé.
Au moins, il
y a Angers qui arrive le 5 octobre et qui va prendre un bus.
Au moins, il y a un suspense dans la Ligue 1.
Bruno. Il va garer le bus. Hein.
Suspense.
Tu parles de bus.
Suspense.
Ça. Non.
Vous trouvez qu'il y en a, du suspense.
Non. Il y a deux leaders.
Après, un dirigeant du Paris Saint-Germain hier soir, en discutant un petit peu après le match, m'a glissé à l'oreille. Je préfère me planter là. Et on finir et être à peu près opérationnel au mois de mars. Février,
oui,
mars.
Oui, mais peut-être qu'il passe.
L'inverse de la saison passée.
Ouais, bon, le PSG roule jamais très bien. Roule toujours trop fort, Hervé.
Ah, tout à fait d'accord.
Hervé,
mais entre rouler trop fort et perdre beaucoup de matchs, il y a une petite différence.
C'est vrai,
parce
Hervé,
que tu vas arriver en mars sans confiance avec un nouvel entraîneur.
Je suis désolé, on n'a pas
mars,
eu.
Ça repart.
Je voulais parler du tonnerre de Brest, mais je suis désolé.
Pas du tonnerre de Yaoundé.
On y reviendra.
Bon,
je voulais
remercier
David Fitzel qui m'a aidé à préparer l'émission, Laurent Salerno à la réalisation. À demain.
Salut Annie.